Vous écoutez, on lit pour vous.
Policiers et gays, n'allumez plus les gyrophares. Un texte de Mario Girard paru le 6 août 2023 dans la presse. Longtemps, les policiers ont dû cacher leur homosexualité. Cette époque est derrière nous. Une véritable révolution a eu lieu ces dernières années. Alors que la Semaine de la fierté bat son plein à Montréal, certains d'entre eux ont accepté de parler en toute liberté à notre chroniqueur. Gabriel Bélanger, agent de la Sûreté du Québec, SQ, se souviendra toute sa vie de ce professeur de cégep lors de sa formation en technique policière. Il disait à tout le monde que les homosexuels devaient être enfermés dans des prisons ou des hôpitaux, car c'était des malades mentaux. Je trouvais ça très difficile à entendre. Mes camarades de classe riaient nerveusement. Il y avait un gros malaise. Ébranlé, le jeune élève se demande s'il doit poursuivre ses études. Il décide de s'accrocher. Il rédige un texte anonyme intitulé « Lettre ouverte à un professeur fermé » qui est publié dans le journal étudiant. La chose fait boule de neige. En guise de soutien, des camarades ont imprimé des centaines de copies du texte et sont allés les glisser sous la porte du professeur. Disons que le message a passé. Cet événement ne s'est pas déroulé dans les années 1970, mais bien en 2003. Cela démontre à quel point les choses ont rapidement et grandement évolué en ce qui a trait à la place des gays, des lesbiennes et des trans au sein des corps policiers. Cette révolution, je l'ai profondément sentie dans les rencontres que j'ai faites ces derniers jours avec des policiers du service de police de la ville de Montréal, SPVM, et de la SQ. Maxime Falardeau est entré au SPVM en 2010. Au départ, il ne parlait pas de son homosexualité à ses collègues. J'avais peur d'être ostracisé ou de devenir le gars de service. Je voulais d'abord être vu comme un individu, comme un policier. Je me mettais beaucoup de pression. L'homosexualité de Maxime Falardeau était connue des membres de sa famille depuis longtemps. Au moment où il est entré au SPVM, il était en couple avec un homme. Lorsqu'il racontait ses week-ends aux collègues, ce conjoint devenait une femme. Si tu dis que tu es célibataire aux autres policiers, tu es foutu. Ils veulent organiser des blind dates. Cet aspect de sa vie, il en parlait à quelques rares collègues. Avant de faire partie de l'équipe de soutien en urgence psychosociale, ESUP, Maxime Falardeau a été agent au poste 22, qui englobait le secteur du village. Mon partenaire était également gay. À la blague, on s'appelait le 22 gay. Son arrivée au sein de l'équipe de l'ESUP lui a donné l'envie de s'ouvrir davantage. On vit des choses qui sont parfois lourdes dans cette unité. Je ne voulais pas porter en plus le poids d'une homosexualité cachée, se souvient Maxime Falardeau. Il en a alors parlé plus librement. Ses collègues se sont empressés de lui dire qu'il avait gardé cela pour lui inutilement. Cette réaction, Giovanna Di Stefano l'a aussi connue. Quand je suis arrivé au SPVM en 1997, je disais à tout le monde que j'avais un chum. Comme j'avais déjà fréquenté des hommes, j'utilisais mon dernier chum comme exemple. À cette époque, Giovanna Di Stefano sortait dans des bars gays du village où se rassemblaient des femmes. Je voyais plein de policières gays. On se saluait. Mais une fois au travail, en uniforme, on ne parlait pas de ça. À 30 ans, en 2001, Giovanna Di Stefano est tombée amoureuse d'une collègue. Elle a pris la décision de faire son coming out auprès de sa famille, de son cercle d'amis élargi et de ses collègues. Là encore, la nouvelle n'a fait aucune vague. « Je m'étais cachée pour rien », dit-elle en riant. « Vous écoutez... Policiers et gays, n'allumez plus les gyrophares. Un texte de Mario Girard paru le 6 août 2023 dans la presse. Un changement de garde. Au moment où Giovanna Di Stefano est arrivée au SPVM, elle entendait parfois des commentaires homophobes de la bouche de certains collègues. Ils pouvaient dire « Elle, c'est une estie gouine ». Mais au tournant des années 2000, un changement de garde s'est opéré. Plusieurs dinosaures ont pris leur retraite, ajoute-t-elle. Des commentaires homophobes, Gabrielle Bélanger en a aussi entendu. Ce que j'observe en 2023, c'est que les collègues qui font ce genre de commentaires sont montrés du doigt. C'est eux qui sont ostracisés, dit-il. La SQ a été le premier corps de police à mettre sur pied à l'interne un comité LGBTQ+. Depuis 5 ans, ce groupe, qui possède des antennes ailleurs au Québec, accompagne l'ensemble du personnel et travaille à combattre les préjugés. La première chose que les nouvelles recrues font à leur arrivée, c'est de rencontrer la haute direction, explique Geneviève Daou, une conseillère en communication à la SQ qui fait aussi partie de ce comité. La deuxième chose, c'est une formation avec notre comité. Ça démontre l'importance qu'on accorde à ça. Lors de mon passage à la SQ, on préparait pour la 5e année consécutive la levée du drapeau arc-en-ciel devant le siège social, rue Parthenay à Montréal. On considère que le plus dans LGBTQ+, est là pour les alliés. Il y a des gestionnaires hétérosexuels qui prennent position. Leur présence fait toute la différence, affirme Geneviève Daou. Le SPVM a imité le modèle de la SQ en créant, il y a 2 ans, un comité LGBTQ+. Maxime Falardeau et Giovanna Di Stefano font partie des cofondateurs. Leur rôle est de lutter contre la discrimination ou l'intimidation en organisant des formations et des ateliers. Des policiers trans. Sur les 4000 policiers du SPVM, combien font partie de la communauté LGBTQ+? Je dirais autant que dans la population en général, m'a dit sans hésiter Maxime Falardeau. Selon plusieurs sources, environ 13% de la population serait constituée de personnes LGBTQ+. Cela voudrait dire que plusieurs dizaines de policiers appartiendraient à ce groupe. Gabrielle Bélanger pense la même chose. Selon lui, les 8000 employés de la SQ, dont 5000 policiers, sont un reflet de la société. Maintenant, la décision de faire un coming out appartient à chacun. Giovanna Di Stefano trouve que les nouveaux policiers qui amorcent leur carrière parlent plus facilement de leur identité. Il ne faudrait pas croire qu'il est plus difficile de vivre son homosexualité ou sa transidentité en région. Je me suis entretenu avec Nicolas, prénom fictif, qui, au moment de se joindre à un corps policier situé en région, a amorcé un processus de transition pour devenir un homme. Quand j'ai été embauché, je n'avais pas commencé l'étape hormonale et chirurgicale, raconte-t-il. Ça a pris un certain temps avant que je sois assez à l'aise pour clarifier la situation. Une employée de ressources humaines lui a tendu la main. Elle m'a proposé d'envoyer un mémo à tout le monde afin de mettre les choses au clair. C'est un petit corps de police. Les choses se sont faites facilement. J'ai changé de vestiaire et c'était réglé. Nicolas, qui n'est pas le seul policier trans au Québec, a reçu plein de messages positifs. Plusieurs collègues sont venus me voir pour saluer mon courage. Au début de ma transition, des citoyens m'interpellaient au féminin. Mes collègues intervenaient pour dire que j'étais un policier. Inspirer les autres. Au milieu des années 1990, le chef du SPVM, Jacques Duchesneau, a contribué à faire tomber les préjugés et rapprocher la police de la communauté gay. L'arrivée récente de Fadi Daguerre permet d'aller encore plus loin. C'est quelqu'un de très ouvert qui est proche des policiers, dit Maxime Falardeau. Il fait en sorte que le SPVM rayonne. Les fameuses descentes policières des années 1970, 1980 et 1990 à Montréal continuent de hanter de nombreux militants gays. Sans doute que parmi les policiers qui y ont participé, il y avait des gays et des lesbiennes qui n'ont pas osé s'y opposer. C'est ça la différence, dit Maxime Falardeau. Aujourd'hui, il y a des policiers, hétéros ou gays, qui lèveraient la main. On oserait se questionner et ne pas faire comme des soldats qui montent au front. J'ai demandé à ces policiers s'ils ont l'impression de faire avancer les mentalités au sein de leur corps de police. Humblement, je pense que oui, dit Maxime Falardeau. Considère-t-il qu'il est un militant? Ça, je ne saurais le dire, mais je suis assurément impliqué dans ma communauté policière et gay. Vous écoutez Policier et gay, n'allumez plus les gyrophares, un texte de Mario Girard paru le 6 août 2023 dans la presse. Gabriel Bélanger et Maxime Falardeau espèrent que leur implication va aider les jeunes gays intéressés par une carrière dans la police à faire le saut. Il y a une belle diversité à Montréal et il faut que les policiers reflètent ça, dit Maxime Falardeau. On a besoin de gens ouverts et de bons policiers. Il faut que les policiers qui sont LGBTQ+, sachent que cela n'empêche rien, dit de son côté Gabriel Bélanger. C'est possible d'être authentique et de gravir les échelons. Je me souviens d'une entrevue où l'on m'a dit que c'était important de le faire. Je vais toujours m'en souvenir. Être fier de ce que l'on est et être transparent inspire les autres. Il faut des modèles dans la vie et ça me fait plaisir d'en être un. Postscriptum. Le SPVM et la SQ tiennent à préciser que les policiers interviewés ne sont pas des porte-parole officiels. Ils se sont exprimés librement et à titre personnel. Postscriptum. Je remercie chaleureusement Carole Normandin qui m'a aidé à trouver les intervenants pour ce reportage. Carole a été autrefois, alors qu'elle était un homme, chef de police. Elle est aujourd'hui une femme épanouie. Les policiers gays toujours interdits au défilé. Depuis 2 ans, l'équipe de Fierté Montréal refuse que les policiers prennent part au défilé en uniforme. Ce mouvement, mené par un petit groupe de gens aux idées radicales, est à mon avis une aberration totale. Plutôt que de profiter de l'arrivée d'une nouvelle génération de policiers et de policières qui ont le courage de montrer un visage différent de la police, on préfère leur faire payer des gestes commis il y a des décennies par leurs prédécesseurs. Le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache, que j'ai rencontré en avril dernier, se trouve coincé entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, je sens une volonté d'ouvrir la porte à ses policiers et de l'autre, il subit la pression de ses militants. « C'est très complexe », m'a-t-il dit. Pour certains groupes, la relation avec les policiers demeure difficile. Il faut aussi dire que pour les policiers qui voudraient participer au défilé, c'est également difficile. Je tente d'établir un dialogue de part et d'autre. Les policiers que j'ai rencontrés ne veulent pas jeter de l'huile sur le feu. Ils ont bon espoir qu'un pont se construira un jour. Des rencontres continuent d'avoir lieu. Maxime Falardeau fait partie des délégués. « Je pense que c'est très politique, dit-il. » Sa tente a changé. Nous ne sommes plus dans les années 1990. Nous ne sommes plus dans la répression. Il y a des humains en dehors des uniformes. On fait une job sociale, rappelle l'agent Maxime Falardeau. Gabriel Bélanger est déçu de la tournure des événements. Je trouve cela dommage. On comprend qu'il y a certaines sensibilités. C'est clair que si c'était permis, j'irais marcher en uniforme. J'ai plein d'amis alliés qui m'ont dit qu'ils allaient venir avec moi. Je précise que Gabriel Bélanger dispose d'un élément qui ne manquerait pas de faire sensation. Sa veste de protection arbore le mot « police » aux couleurs de l'arc-en-ciel. En attendant une plus grande ouverture d'esprit de la part de Fierté Montréal, des policiers du SPVM et de la SQ seront présents aux journées communautaires des 11 et 12 août 2023 rue Sainte-Catherine. C'était « Policiers et gays, n'allumez plus les gyrophares », un texte de Mario Girard paru le 6 août 2023 dans la presse.
La ventilation des écoles fait du surplace au Québec, un texte de Zachary Goudreau paru le 12 avril 2024 dans Le Devoir. Le nombre d'écoles ventilées mécaniquement stagne au Québec et les établissements les plus vieux de la province sont surreprésentés parmi ceux où l'aération des lieux dépend entièrement de l'ouverture des fenêtres, été comme hiver. Un peu plus de 45 % des quelque 2740 écoles primaires et secondaires publiques du Québec sont ventilées naturellement, montrent des données obtenues par Le Devoir en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Dans ces établissements, il revient aux enseignants de surveiller de près l'évolution de la concentration de CO2 dans leur classe et d'ouvrir régulièrement les fenêtres et la porte de celles-ci pour en assurer une aération adéquate. C'est le cas notamment à l'école primaire Saint-Anselme à Montréal, où enseigne Anissara Lemieux-McClure. L'hiver, je demande aux enfants d'apporter une veste de plus à l'école parce que je dois souvent ouvrir les fenêtres pour assurer la ventilation. Ce qui entraîne une baisse de la température dans la classe, explique l'enseignante. Quand j'ouvre mes fenêtres, il fait très froid, poursuit Madame Lemieux-McClure. Elle aimerait bien que son école soit munie d'un système de ventilation mécanique, ce qui viendrait améliorer le confort des élèves et réduire le poids sur les épaules des enseignants. Or, le nombre d'écoles ventilées de façon mécanique stagne au Québec. Au printemps 2022, les résultats d'une demande d'accès à l'information menée par Le Devoir indiquaient que 45 % des écoles publiques de la province étaient ventilées uniquement par l'ouverture des fenêtres. Des données extraites en mars 2024 par le ministère de l'Éducation montrent que ce pourcentage n'a pas bougé depuis. Les autres écoles de la province disposent d'un système de ventilation mécanique dans soit une partie, soit l'ensemble de leurs locaux. Le fait que les travaux ne semblent pas avancer, c'est préoccupant, lance la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, Mélanie Hubert, au sujet de l'installation de systèmes de ventilation mécanique dans les écoles de la province. C'est une préoccupation sur laquelle on souhaite que le ministère mette plus d'énergie. Il faut qu'on sente un sentiment d'urgence, ajoute Mme Hubert, qui demande à Québec d'accélérer les travaux visant à moderniser la ventilation dans les écoles afin d'y assurer une bonne qualité de l'air. En mars 2024, des données publiées par le gouvernement du Québec faisaient d'ailleurs état d'une légère dégradation de la qualité de l'air dans les écoles. Joint par Le Devoir, le ministère de l'Éducation du Québec indique avoir investi 550,9 millions de dollars depuis juillet 2020 afin d'améliorer la qualité de l'air dans les écoles, auxquels s'ajoutent 271,1 millions pour l'année scolaire en cours. Par ailleurs, si on prend en considération la superficie totale des écoles, on estime que c'est plus de 68 % de celle-ci qui est ventilée mécaniquement, fait valoir le ministère. Une question de santé publique. Dans le contexte de la pandémie, le gouvernement a d'ailleurs muni l'ensemble des classes de la province de lecteurs de CO2, en plus d'investir dans l'achat d'échangeurs d'air pour certaines d'entre elles. Or, c'est insuffisant, estime le président de la Centrale des syndicats du Québec, Éric Gingras. Ça ne règle pas tout, avoir des détecteurs de CO2. Il faut être en mesure, quand il y a des hivers plus froids, de faire autre chose qu'ouvrir les fenêtres, souligne M. Gingras. Selon lui, des investissements importants sont nécessaires pour augmenter le nombre d'écoles munies d'un système de ventilation mécanique, le Québec n'étant pas à l'abri d'une nouvelle crise sanitaire qui ramènerait le débat sur la ventilation des écoles à l'avant-plan. Une préoccupation que partage la médecin Marie-Michèle Belon, qui est membre du conseil d'administration de la Société canadienne de la COVID. L'organisme milite notamment pour une meilleure ventilation des écoles, qui est associée à une réduction de la propagation des virus respiratoires. Les élèves infectés manquent beaucoup d'école, et ça a un impact sur leur parcours scolaire, souligne Mme Belon, qui note elle aussi que l'installation de lecteurs de CO2 ne peut en soi suffire pour améliorer la qualité de l'air des établissements. La prochaine étape, c'est d'aller plus loin et de proposer des solutions quand on constate que les chiffres de la concentration de CO2 dans les classes sont élevés, indique la médecin. Ainsi, d'ici l'installation d'un système de ventilation mécanique dans les classes problématiques, celle-ci pourrait être munie de purificateurs d'air, propose-t-elle. Pire dans les plus vieilles écoles. Une analyse du Devoir montre d'ailleurs que les écoles qui n'ont pas de ventilation mécanique sont en moyenne plus anciennes que l'ensemble des établissements de la province. 8 des 10 plus vieilles écoles du Québec sont sur cette liste. Les nouvelles écoles sont pour leur part généralement munies d'un système de ventilation mécanique. Or, dans les écoles vétustes, la ventilation ne représente qu'une partie des problèmes auxquels sont aux prises élèves et enseignants, souligne Anissara Lemieux-Meckler. On nous dit de ne pas mettre de punaises sur les murs pour l'amiante. On a des murs qui gondolent, de la moisissure et des souris en abondance. Dans ce contexte, le médecin spécialiste en santé et environnement à l'Institut national de santé publique du Québec, Stéphane Perron, relève l'importance de rénover de fond en comble les écoles vétustes de la province, où la mauvaise ventilation ne représente souvent qu'une cause parmi d'autres des problèmes qui influent sur la qualité de l'air dans ces établissements. Parmi ces problèmes, on compte la présence de plomb dans la peinture et de radon dans l'air, précise-t-il. C'est une priorité d'identifier les écoles vétustes et celles qui sont à risque de le devenir et d'intervenir là en premier, souligne l'expert, qui insiste sur le fait que la ventilation mécanique n'est pas en soi une panacée. Je serais très inquiet si on mettait tout le paquet sur la ventilation sans tenir compte de la vétusté des bâtiments. C'était « La ventilation des écoles fait du surplace au Québec », un texte de Zachary Goudreau, paru le 12 avril 2024 dans Le Devoir.
L'inspiration des White Watchers pour réduire le stress financier. Une chronique signée Valérie Lesage, parue le 14 août 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Kera Technologies a conçu un entraînement aux finances personnelles grâce à l'intelligence artificielle. Quand Eric McNichol était cadre chez Desjardins, il arrivait que ses employés se confient à lui sur leur stress financier, dans l'espoir qu'ils puissent avoir quelques trucs pour les aider à mieux gérer leur argent. C'est le moment où il a commencé à découvrir le poids d'un stress qui touche de plus en plus de gens. Inflation oblige. Pour un qui se confiait, il y en avait combien qui n'osaient pas en parler et qui restaient seuls avec leurs problèmes, s'était-il demandé. Sans le savoir alors, c'était la genèse de Kera, sa start-up consacrée au bien-être financier. Eric, avec son équipe, a bâti une solution numérique qui offre du coaching personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. Son poste aboli, il devient entrepreneur. Eric est plongé dans l'entrepreneuriat après 28 ans chez Desjardins. Son poste a été coupé. On aurait pu le replacer dans l'entreprise, mais il a vu là l'occasion de réaliser son rêve, devenir entrepreneur. Il voulait s'occuper d'éducation financière, un secteur où les besoins sont grands. Si on veut aider les gens, s'est-il dit, il faut les comprendre, pas les juger. Il s'est mis à consulter les études, à collaborer avec l'Université de Sherbrooke pour mieux définir les contours de son projet. Et en 2018, il a fondé Kera. Sa solution aurait pu paraître intéressante et vertueuse, mais on aurait pu aussi le laisser prêcher dans le désert longtemps. Convaincre des employeurs de payer pour améliorer la santé financière des employés, ce n'était pas gagné. La pandémie aura été pour lui un formidable tremplin parce qu'on s'est mis à parler beaucoup de santé mentale, de stress, de tout ce qui nuit à la productivité des entreprises. Le stress financier en fait partie. Le stress financier coûte cher. Une étude réalisée en 2022 par Ceridian et le Financial Wellness Lab évalue que 82 % des employés nord-américains pensent à leurs finances personnelles quand ils sont au travail. Au Canada, les pertes de productivité sont estimées à 50 milliards de dollars annuellement, un bond de 30 milliards en 3 ans. L'inflation qui gruge la santé financière des ménages fait monter le stress et diminuer la performance des employés. Pour éliminer le stress, il faut être capable de faire face aux imprévus. Nous, on propose un plan personnalisé pour être capable de ça, pour redonner de l'air et ne plus être en précarité financière, explique Eric. Tout est fondé sur des changements de comportement. Pour y arriver, il fallait trouver une manière d'encourager, pas de punir les écarts. Régime anti-stress. On a conçu un entraînement. Notre outil est inspiré des Weight Watchers. Rester focalisé sur les chiffres, l'argent, les transactions, ça n'allait pas marcher, soutient Eric. Keira permet d'avoir une vue globale en continu sur ses finances, de mieux comprendre notre relation à l'argent et de se fixer des objectifs petit à petit. Garda World a été la première entreprise à croire à la solution et à s'inscrire dans le projet pilote l'an dernier. Cette année, les investisseurs sollicitent la FinTech basée à Montréal. Eric sait qu'il a encore beaucoup de chemin à faire pour que sa solution gagne en impact en ralliant des dizaines de milliers d'utilisateurs, mais chaque matin, il se dit qu'il fait la plus belle job au monde, avec une équipe passionnée par la mission sociale de l'entreprise, car c'est bien à un enjeu de société qu'il s'attaque avec Keira. Même si je gagne pour le moment un petit salaire, je ne changerai ma place pour rien au monde, dit-il, reconnaissant envers sa conjointe qui le soutient dans son projet et sans qui rien de cette aventure ne serait possible. C'était l'inspiration des Weight Watchers pour réduire le stress financier, une chronique signée Valérie Lesage, parue le 14 août 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal.